Chapitre 18. Une soirée au Louvre. Concini avait pris, comme on l'a vu, le chemin du Louvre. Pendant tout le trajet, au fond de son carrosse, Concini avait tenu dans ses mains le flacon que lui avait remis Rinaldo. « 8 jours, murmurait-il, 8 jours encore, et grâce à cette liqueur que Lorenzo a fabriquée pour moi, l'orgueilleuse fille d'Angoulême s'avouera vaincue et baissera la tête. » Il frissonna cette idée. « Oh » continua-t-il, « si cela arrive, je te couvrirai d'or, Lorenzo, sublime savant. Et pourquoi cela n'arriverait-il pas? Pourquoi Lorenzo n'aurait-il pas trouvé l'élixir d'amour comme il a retrouvé l'oicatophane? Jamais jusqu'à ce jour, il ne s'est trompé. » Et ce flacon, il le serrait convulsivement dans ses doigts crispés. Et ce flacon, nos lecteurs le savent, contenait non pas un élixir d'amour et de vie, mais un poison qui, sans la tuer, devait décomposer le sang de celle qu'aimait Concini. C'était la vengeance de Léonore à Galigai. Concini versant lui-même à Gisèle la liqueur maudite qui devait détruire sa beauté, c'est cela que Léonore avait inventé et c'est cela qui allait s'exécuter. Concini, donc, arriva au Louvre vers l'heure où Léonore à Galigai, dans la boutique du Pont au Change, avait avec Lorenzo ce formidable entretien auquel nous avons assisté. C'était l'heure où le nain lui remettait le poison qui devait tuer Louis XIII. Concini, escorté de ces gentils hommes qui, selon leur ordinaire, menaient grand bruit comme s'ils se fussent trouvés en pays conquis, monta l'escalier qui conduisait aux appartements de la reine-mère Marie de Médicis. Concini arriva dans la grande galerie que, tous les soirs, traversait le jeune roi. Elle était déserte, silencieuse, sauf la garde et quelques courtisans encore fidèles. Et ce soir-là, Concini, tout à coup, tressaillit, pâlit, fronça les sourcils. « Quoi ? Qu'y a-t-il ? Les gardes ne lui rendent pas les honneurs ?» Le capitaine Vitry lui tourne le dos et cause tranquillement avec Saint-Simon, le premier écuyer. Concini a senti courir sur sa nuque le frisson des peurs mortelles. Est-ce que le roi se révolte contre lui? Oh, mais cette révolte, c'est sa mort à lui, Concino. Il tremble, le hideux pressentiment s'empare de lui. C'est l'effondrement. D'un frénétique effort, il secoue la terreur et il gronde. Corpo di Cristo, c'est la bataille. Soit, Léonora, Léonora, tu es la sibylle de mes destinées et ton œil noir a vu clair dans ma vie. Je dois mourir ou devenir le maître absolu. » Concini marcha à Vitry et lui frappa rudement sur l'épaule. Vitry se retourna. « Monseigneur ? » ?»« Eh bien, mon brave Vitry ?» Et à petite tape méprisante, Concini continuait à frapper l'épaule du capitaine. Blanc de fureur, Vitry recula de 2 pas. Mais Concini le rejoignit et, les yeux dans les yeux, « On ne rend plus les honneurs ?» C'est l'ordre, le roi seul à partir de ce soir. Bien, Vitry, interrompit le maréchal d'Ancre. Qui t'a fait capitaine? Qui t'a mis ici? Réponds, le roi ou moi? Tu as peur d'honorer ton bienfaiteur, hein? Crie donc, toi aussi, mort à l'affameur. Comment appelles-tu cela? Moi je dis lâcheté. Le capitaine devint livide. Un instant, sa main tremblante descendit jusqu'à la garde de son épée. Mais, secouant la tête, il se contenta de répéter « C'est l'ordre !»« Et qui a donné l'ordre ?» gronda Concini. « Moi !» répondit une voix rude. Une tenture s'écarta. La haute taille du maréchal Ornano s'encadra dans le velours. Concini jeta autour de lui un regard sanglant et vit ses gentilshommes prêts à dégainer. « Padre Eterno, par le Père éternel !» murmura sourdement Ornano. « Qu'un de ces petits maîtres fasse un geste et j'empoigne le Florentin !» Concini brusquement s'apaisa. Des yeux, il contint ses gens. Avec cette soudaineté qui faisait de son masque une merveille de comédie, il prit son air le plus riant. « Bonsoir, maréchal » dit-il de sa voix chantante et zézayante. « Bonsoir, mon cher maréchal !» Je vous cerçais justement. Vous savez qu'il est question de choisir un gouverneur pour monsieur. Eh bien, fit Ornano en fronçant les sourcils. Eh bien, j'ai pensé que nul n'était plus digne d'occuper ce poste de confiance que votre fils Jean-Baptiste. Il est juste que le pacificateur du Dauphiné soit récompensé jusque dans ses enfants. Réfléchissez à cela, mon cher maréchal, et sous deux jours, dites-moi si vous acceptez ou si vous refusez. Ornano avait reçu le coup en pleine poitrine. Voir son fils pourvu d'un poste qui en eût fait un des premiers personnages de la cour, cela passait ses espérances. Il demeura donc tout étourdi, et avant qu'il ne fût revenu de sa stupeur, il vit Concini qui, lui faisant de la main un signe gracieux, s'éloignait, suivit, ou plutôt, environnait de son escorte étincelante, bruyante, papillonnante, manteaux agités, éperons sonnants, vision de splendeur et de force. À l'instant où ce groupe rutilant disparaissait, une porte, à l'autre bout de la galerie, s'ouvrit. Une voix cria « Le roi !» Louis XIII entra, vêtu de noir, le pas nonchalant et timide, l'œil soupçonneux. Il s'appuyait au bras d'Albert de Luynes. Les gardes abaissèrent les pointes de leur hallebarde. Les quelques courtisans perdus dans la galerie se mirent sur un rang et s'inclinèrent. Le roi passa, muet et pâle, dans ce grand silence. Alors seulement, le maréchal d'Ornano reprit ses esprits. Il se tourna vers Vitry et, avec un sourire pareil à un coup de stylet, « Je crois que M. d'Ancre vous a dit un mot qui vaut son pesant de vendetta. » « Oui, monsieur, répondit Vitry avec une froideur terrible. Il a dit lâcheté. Vous croyez ? Diable, diable, mon pauvre Vitry, comment allez-vous vivre avec ça sur la joue ? C'est bien simple, maréchal, je laverai. Et avec quoi ? Avec du sang. » Ces quelques demandes et réponses faites d'une voix basse et rapide contenaient toute une tragédie. Au dernier mot de Vitry, Ornano se recula, demeura un instant pensif, puis, secouant sa rude tête de reître, « Je m'en vais essayer de gagner quelques pistoles au jeu du roi. Ce sera toujours autant de prix sur ma solde arriérée. » Concini, ayant laissé son escorte dans le salon attenant à la galerie, s'élança dans un couloir, monta dans un escalier et parvint à une antichambre où étaient postés, en des attitudes raidies, 8 magnifiques Suisses de la garde de la reine-mère. Sans faire attention à ces hommes, Concini ouvrit une petite porte et passa dans une pièce déserte où il attendit quelques minutes, palpitant, l'œil et l'oreille aux aguets. Une tenture s'agita d'un mouvement imperceptible. Concini ne s'en aperçut pas. À pas furtif, il se dirigea vers la porte qui faisait vis-à-vis à cette tenture et frappa un coup léger. La porte s'ouvrit. Une jeune femme apparut. Concini, sans un mot, tira de sa poche une bourse pleine d'or. La femme s'en saisit. « Tu es toujours à moi ?» murmura alors Concini. « Puisque vous payez, monseigneur. » « Elle est là ? » reprit-il d'une voix qui tremblait. « Oui, monseigneur. » Concini poussa un soupir. À l'autre bout de la pièce, la tenture s'agita. « Que fait-elle ? Que dit-elle ? Est-ce qu'elle pleure ?»« Elle est trop fière pour cela. Ce qu'elle fait, rien. Ce qu'elle dit, je l'ignore, car elle ne daigne parler qu'à la reine. » Et la femme jeta un vif regard vers la tenture qui s'immobilisa. Brusquement, Concini sortit de son pourpoint le minuscule flacon que lui avait remis Rinaldo et le tendit à la servante qu'il examina curieusement. « Écoute, dit-il alors d'une voix plus sourde, il faut qu'elle en prenne 3 gouttes tous les soirs pendant 8 jours. »« Du poison ? Ah, monseigneur !» dit la femme en élevant la voix. « Tais-toi, folle !» gronda Concini. « Ce n'est pas du poison, c'est... Comprends-moi, elle me déteste, et quand elle aura vidé ce flacon, elle m'aimera. »« Un élixir d'amour ? Tu l'as dit. » La tenture s'agita encore, puis redevint immobile. « En ce cas, monseigneur, vous pouvez compter sur moi. »« Elle boira, » palpita Concini. « Je m'en charge. »« Et moi, je me charge de ta fortune, entends-tu ? » murmura Concini enivré. La femme fit une révérence, et Concini, sur la pointe des pieds, regagna la porte par où il était entré, traversa l'antichambre, descendit rapidement et se dirigea rayonnant vers la salle où se tenait le jeu du roi. Dès qu'il fut sorti, la tenture se souleva et Marie de Médicis apparut, pâle, agitée, dans l'encadrement du velours. La servante courut à elle, se courba presque jusqu'à l'agenouillement, puis, se relevant, lui tendit le flacon.
« Madame, commença-t-elle, il veut que... »«
C'est bien, j'ai entendu, interrompit la reine. Regagne ton poste. » La reine avait saisi le flacon et, tandis que la servante disparaissait, elle-même s'effaça de l'autre côté de la tenture. C'était une vaste salle, une sorte d'atelier encombré de sièges où s'entassaient des coussins de soie, avec des tables où s'éparpillaient des plans et des épreuves de gravure, et enfin, dans un coin, une presse où luisait la plaque de cuivre rouge à laquelle Marie de Médicis travaillait alors. La reine, lentement, traversa la pièce immense qui était son lieu de travail et de repos. Près de la presse, elle s'arrêta, contempla un instant le flacon qu'elle tenait à la main et murmura « Élixir d'amour !» Un tressaillement l'agita jusqu'au fond de l'être. Ses beaux yeux noirs lancèrent des éclairs. Brusquement, elle posa le flacon sur l'encadrement de fer de la presse, saisit un marteau et frappa d'un seul coup furieux. Le cristal se brisa, le liquide se répandit. Alors, Marie de Médicis porta la main à ses yeux, elle pleurait. « 40 ans, j'ai 40 ans, voilà le mal » murmurait-elle. « Oh, je me défendrai, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas être abandonnée. Concino est mien, il restera mien. Et puisque j'ai donné ma vie à cet homme, il faut que sa vie soit à moi. Je veux... Oh, ne suis-je donc pas la reine? Je veux... Giuseppa !» La jeune femme que nous avons entrevue tout à l'heure apparut et s'avança. « Giuseppa !» dit Marie de Médicis en contenant les frémissements de sa voix. « Cette damoiselle... » « Gisèle d'Angoulême, Majesté. »« Oui, eh bien, il faudra... »« Écoute, il est impossible qu'elle continue à demeurer au Louvre. Le Louvre n'est pas une prison, après tout. »« C'est vrai, madame, » dit Giuseppe, en tâtant pour ainsi dire les mots l'un après l'autre. « Le Louvre est un palais, mais en descendant au fond des caves, plus bas que les caves, on trouve les oubliettes. » Marie de Médicis tressaillit. Une légère rougeur monta à son visage. « Les oubliettes, » dit-elle d'une voix sourde. « Depuis Catherine, nul n'en sait le chemin. Cette jeune fille ne m'a fait aucun mal. Et cependant, elle me gêne, » ajouta-t-elle avec une froideur sinistre. « Je ne veux plus la voir ici. Tu attendras donc que tout soit endormi dans ce palais, puis tu la feras sortir. Tu me comprends ?»«
Oui, madame. Et une fois dehors ?»
« Eh bien, qu'elle aille où elle voudra !» fit Marie de Médicis, qui, de rouge qu'elle était, devint pâle. « De cette façon, je serai débarrassée d'elle, car il est impossible qu'une jeune fille se trouve seule dans les rues vers les 11 heures du soir sans qu'il lui arrive quelque accident. Non, cela est tout à fait impossible. » Et la reine Marie jeta un regard à la servante. Ce regard était terrible. « Tout à fait impossible !» répéta Giuseppe. « Va donc et songe à m'obéir. »
11h30 venait de sonner. Le roi s'était retiré dans sa chambre. Les courtisans s'en allaient, tandis que les valets éteignaient les flambeaux. Dans la salle de jeu du roi, il n'y avait plus que quelques gentilshommes qui, l'un après l'autre, s'enveloppaient de leurs manteaux pour quitter le Louvre. Ordano venait de s'en aller, furieux d'avoir perdu les pistoles qu'il comptait gagner. Concini, au contraire, comptait sensiblement son gain. « Parbleu !» avait grogné Ornano, « il triche !»« Prenez, faquin !» disait à ce moment Concini en distribuant aux valets l'or qu'il avait gagné. Et lui aussi s'apprêtait à se retirer. À ce moment, Léonora Galigai entra dans la salle et se dirigea droit vers son mari. Concini la vit venir, le front soucieux.
« Concino !» murmura Léonore. « La reine veut te parler !»
Il y avait du désespoir, de l'amertume et une volonté farouche dans sa voix. Concini avait froncé les sourcils.
Il faut y aller, reprit rudement Léonore. Il le faut, entends-tu ?
Eh bien, j'y vais, mais que peut-elle avoir à me dire ?
C'est bien, Léonore, dans une heure, je vous rejoins à l'hôtel.
Concini fit un mouvement pour se retirer. Léonore le saisit par le bras d'une étreinte nerveuse et puissante. Alors il la regarda et il vit qu'elle était livide.
« Quoi encore ? » fit-il.
Elle respira péniblement, son sein se souleva, ses lèvres étaient blanches, ses yeux noirs fulguraient. Laide, difforme, elle avait à cette minute la sombre beauté fatale que donne aux visages les plus insignifiants l'amour déchaîné sous la tourmente de la jalousie.
Il y a, Concino, que j'en ai assez. Il y a que je souffre à mourir et que je ne veux pas que mon cœur éclate sous l'effroyable pression de la douleur. Concino, il faut en finir. Je hais cette haine Maria. Je la hais, vois-tu? Il n'y a pas une fibre de mon être qui ne soit pétrie de haine.
Et pourtant, Cara, tu m'envoies à elle.
Oui, dit Léonore frissonnante. Il le faut, ce soir plus que jamais. « Car ce soir, c'est le commencement de la fin. »
Concini sentit une vague épouvante se glisser jusqu'à son cœur. Il connaissait trop la redoutable compagne de sa vie pour supposer un seul instant que les mystérieuses paroles étaient vides de sens. « Le commencement de la fin » répéta-t-il machinalement.
« Concino !» reprit-elle en le dévorant jusqu'à l'âme de son regard embrasé. « Tu m'as dit que dans une heure, tu viendrais me rejoindre à l'hôtel ?»«
Je te le jure. »«
Eh bien, tu ne m'y trouveras pas. Ce soir, je reste au Louvre. »
Il frémit, l'instant terrible approchait. Il en eut le pressentiment rapide. Dans la salle, tous les flambeaux, sauf un, étaient éteints. Au fond, bien loin d'eux, un valet attendait tout raide. Ils étaient immobiles, dans cette lueur diffuse, plus terrible que l'obscurité. Le silence pesait sur eux. Et, dans ce silence, la voix de Léonore, imperceptible, murmura
« Tout est prêt, Concino. Angoulême, Guise, Condé sont à Paris, prêts à agir avec leurs acolytes. Le trône sera au plus fort. Laisse-les faire et profite de leurs actes. Le plus fort, ce sera toi. Concino, prépare ton âme, prépare ton bras, l'heure est proche. »
Mais, lui... « Le roi !» balbutia Concini, frappé de vertige.
« Dans deux jours, dans quatre au plus, il n'y aura plus de roi en France !» acheva Léonore à Galigaï dans un souffle. « Car ce soir, Concino, ce soir, entends-tu, ce soir, tandis que tu seras auprès de la mère du roi, je serai, moi, au chevet de Louis XIII. Va maintenant !»
Et avant que son mari ne fût revenu de la prodigieuse stupeur qui le paralysait, elle s'éloigna lentement et il la vit enfin disparaître vers l'intérieur du Louvre, pareil à un spectre. Alors, chancelant, il se mit en route. Le valet éteignait le dernier flambeau. La nuit fut opaque.
Concini admettait l'assassinat du roi, mais comme un des événements qui ne sortent pas du domaine du rêve. Devant l'imminence de la réalité, il sombra dans l'épouvante. Pourtant, à mesure qu'il se rapprochait des appartements de la reine-mère, il s'efforçait de dompter sa terreur. Avec la foudroyante rapidité de l'imagination que talonne la peur, il organisa son acte à lui. Si la chose s'accomplissait, s'il n'avait qu'à monter les marches du trône, il se laisserait pousser au pouvoir suprême. Si des obstacles surgissaient, il préparerait sa fuite. Dans les deux cas, il comprit qu'il avait besoin de Marie de Médicis. Plus que jamais, il devait la tenir en son pouvoir. Demain, il briserait l'instrument, si demain apportait au monde cet événement encore dans les limbes, Concino Concini, roi de France. Il apprêta donc toute sa séduction, il apprêta son visage, son sourire, sa flatterie et sa tendresse, tout ce qui faisait de lui le dieu de cette femme, livré à une passion de l'âge terrible. En pénétrant dans l'antichambre que nous avons signalée, Concini vit Giuseppa qui l'attendait. Alors sa pensée fit volte-face. Alors l'image de Gisèle, un instant effacée de son esprit, y reparut triomphante. Il s'avança rapidement vers Giuseppa, lui saisit la main de sa main brûlante et lui murmura à l'oreille « Est-ce fait ? As-tu commencé à lui verser l'élixir ? »
Giuseppa se dégagea, eut un geste que Concini ne comprit pas, et répondit « La reine vous attend !» En même temps, elle soulevait la tenture de velours, et Concini vit Marie de Médicis assise dans un fauteuil qui souriait d'un étrange sourire. Dans le même instant, il reprit tout son sang-froid, s'arma de tendresse dévouée, et s'avança, courbé, souriant, toute son attitude était un sourire. « Majesté, chère majesté, me voici à vos ordres !» murmura Concini. « Asseyez-vous, Concino !» dit la reine, écartant ainsi du premier coup toute étiquette et indiquant nettement que c'était la femme et non la reine qui avait mandé le maréchal d'Ancre. Concini, d'ailleurs, obéit sans discussion. « Ainsi, chère Marie, vous ne m'en voulez plus » fit-il d'une voix caressante. « Comment vous en voudrais-je, Concino ? » dit-elle avec une sorte de gravité. « Accablée d'ennui, entourée d'ennemis, je n'ai que vous pour me consoler. Et d'ailleurs, de quoi vous en voudrais-je ? De la petite scène de l'autre jour ? C'est vrai, j'ai eu un moment de jalousie, mais c'est passé. Oh, chère, bien chère !» Et puis, continua Marie de Médicis avec la même gravité, « je ne puis plus maintenant être jalouse de la fille de Monsieur d'Angoulême. » Concini tressaillit violemment. Il connaissait Marie de Médicis aussi bien qu'il connaissait Léonore à Galigai. À ces étranges paroles de la reine, il comprit, il sentit qu'il allait apprendre quelque chose d'effrayant. Et toute son énergie, il l'employa à recevoir le choc d'un visage souriant toujours. Marie de Médicis, cependant, d'un geste machinal, jouait avec le gland de soie du coussin sur lequel elle était assise. Les yeux perdus dans le vague, elle continua. Votre plan politique, mon cher, était admirable. Détenir cette jeune fille prisonnière et dire au père qu'il adore, ou vous cesserez de conspirer, ou vous ne verrez plus votre enfant. Oui, c'était une imagination subtile et de bonne guerre. C'est un malheur que ce plan ne puisse plus être exécuté, car le duc d'Angoulême devient dangereux. « Nous réduirons le duc, je vous le jure, » dit Concini d'une voix altérée. « Mais pourquoi ce plan que vous dites de bonne guerre ne peut-il plus être exécuté ?» Marie de Médicis, alors, regarda Concini en face et répondit « Parce que Gisèle d'Angoulême n'est plus en notre pouvoir. » Concini étouffa un rugissement. « Évadé ? » gronda-t-il. « Oui, » dit Marie de Médicis avec un calme effroyable. « Nous la reprendrons, oh, nous la reprendrons !» balbutia Concini, qui, à cet instant, oublia toute prudence. « Il le faut, voyez-vous ? Ah, comprenez donc, si la fille nous échappe, le père devient... Oh, mais comment ce malheur est-il arrivé ? Remettez-vous, ami Coccaro, » fit Marie de Médicis, avec une douceur aussi effroyable que le calme que nous signalions. Concini se frappa le front. D'un énergique effort de volonté, il dompta la rage qui voulait faire explosion sur ses lèvres. « Pardonnez-moi, Marie, » fit-il, « et ne voyez dans mon émotion que ce qui y est réellement. Mon dévouement s'alarme des malheurs qui peuvent résulter de cette évasion. Mais nous reprendrons cette fille de rebelle, rebelle elle-même, et la Bastille, cette fois, saura nous la garder. » « C'est impossible !» prononça Marie de Médicis avec une tranquillité sinistre. « Nous ne pouvons pas reprendre Gisèle d'Angoulême. »« Et pourquoi ?» demanda violemment Concini. Marie de Médicis répondit doucement. « Parce que Gisèle d'Angoulême s'est évadée dans la mort. Elle vient de se tuer. » La reine, en prononçant ces mots, se leva. Concini demeura sur son tabouret, écrasé, foudroyé, la gorge serrée par une affreuse angoisse, livide, hagard, sans un mot, sans pensée, effondré dans l'horreur. Tout tournait autour de lui et ce mot résonnait sourdement dans sa tête. Morte, morte. Seulement, de ses lèvres entrouvertes, s'échappait un râle précipité. Marie de Médicis le contemplait avec une joie sombre et farouche. Morte, bégaya enfin Concini. « Morte ! Morte ! » répéta la reine. Concini ne pleura pas. Peut-être y avait-il en lui plus de rage encore que de douleur. Gisèle lui échappait à jamais, évadée dans la mort. Il ne posa aucune question.
Il souffrait atrocement. Il n'avait qu'une idée, s'en aller, fuir, se réfugier en quelque solitude pour crier, sangloter, hurler sa souffrance. Il voulut se lever, Marie de Médicis le retint d'un geste et cria « Giuseppa !» La servante favorite, servante de mystérieuse besogne, entra. « Giuseppa, dit la reine, raconte à monsieur le maréchal ce qui est arrivé ce soir à cette fille. » « C'est bien triste, madame, dit tranquillement Giuseppa. Pour obéir aux ordres de votre majesté, j'avais proposé à la demoiselle de sortir du Louvre à condition que ce serait la nuit et qu'elle ne ferait aucune tentative pour s'éloigner de moi. D'ailleurs, deux gentilshommes du service de la reine devaient nous suivre. La demoiselle accepte avec joie et me charge de transmettre ses remerciements à sa majesté généreuse. Bon, sur les 10 heures, nous quittons le Louvre. » Je lui demande de quel côté elle veut se diriger. Elle me répond qu'elle aimerait respirer la fraîcheur du fleuve. Bon, nous remontons donc la Seine. La demoiselle semblait calme, heureuse de cette promenade. Nous arrivons au-dessus du pont au change. Tout à coup, la demoiselle me dit « Je ne peux plus vivre ainsi, je suis trop malheureuse. » Et elle se met à courir sur la berge vers le fleuve. Je pousse un cri. Monsieur de Luc et Monsieur de Brun, qui nous escortaient à distance, accoururent. Trop tard, la demoiselle s'était jetée dans le fleuve. Pas de bateau, personne. Monsieur de Brun se précipite à l'eau et s'épuise en vains efforts. Le courant avait entraîné la malheureuse fille sous les arches du pont. Là, elle est prise par les tourbillons. Un instant, nous la distinguons dans la nuit. Puis, plus rien, sinon que Monsieur de Brun s'est allé coucher avec une grosse fièvre. Le pauvre jeune homme. C'est bien, Giuseppa, tu peux te retirer, ma fille, dit la reine. Giuseppa fit la révérence et disparut. Concini demeurait stupide d'horreur. Pour la première fois de sa vie, peut-être, il éprouvait le vertige de la douleur qui désorganise un cerveau, anéantit les facultés, ravage une intelligence comme un ouragan fait d'un paysage. Marie de Médicis, doucement, posa sa main sur son front et murmura « Tu souffres, dis ?» Une rafale d'épouvante secoua jusque dans ses fondements l'esprit de Concino. Il se vit impuissant à cacher cette douleur qu'il fallait dissimuler à tout prix. Car cette douleur, c'était sa passion pour Gisèle, avouée, proclamée. C'était la rupture immédiate avec son amante royale, c'était l'effondrement. Car dans cette minute même, oh, dans cette tragique minute, Léonora Galigai versait le poison au fils de la reine. « Tu souffres ?» répéta Marie. Et tout s'effondra dans l'âme de Concini. Léonora, le poison, le crime, le régicide, la lutte pour la puissance, trône, sceptre, tout disparut devant cette seule image, les flots de la Seine roulant vers le néant le corps de l'adoré. Ses yeux se dilatèrent, sa bouche se crispa, sa poitrine se souleva, les sanglots grondèrent, roulèrent dans sa gorge, éclatèrent parmi des cris, des plaintes, des gémissements atroces. L'aveu, la rupture. Marie allait le chasser. Tout était perdu. Et, brusquement, un étonnement infini descendit sur lui. Marie, doucement, enlaçait son cou de ses deux bras. Marie, plus doucement, appuyait sa tête sur son sein. Marie, plus doucement encore, murmurait « Pleure, va, pleure, amico caro. Qui pourrait te consoler, sinon celle qui t'aime? Pleure sans crainte, dis-moi ta souffrance et ton amour. Je te consolerai, moi, je te guérirai. Je ne suis plus, je ne puis plus être jalouse, puisqu'elle est morte. » Le récit de Giuseppe était rigoureusement exact, sauf quelques détails. Giuseppe avait réellement proposé à l'hôtesse, ou plutôt à la prisonnière de la reine, une promenade nocturne que Gisèle, étonnée, avait acceptée sur le champ avec le secret espoir d'une évasion. Les deux femmes sortirent du Louvre, Giuseppe babillant à tort et à travers pour étourdir sa compagne, et Gisèle, silencieuse, l'esprit alerte, le cœur ferme. Elle se savait surveillée par des hommes qui suivaient à distance. Ou du moins, Giuseppe le lui avait affirmé. Mais Gisèle ne connaissait pas la peur. Elle assura à sa ceinture le petit poignard qu'elle y portait et résolue à reconquérir sa liberté, se tint prête à tout événement, tandis que, Passive en apparence, elle se laissait conduire au gré de la servante qui, respectueusement, lui offrait son bras. Les rues étaient désertes et noires. De loin en loin, des groupes étranges leur apparaissaient, tire-laine embusquée ou lente patrouille du guet. Alors Giuseppa tremblait et invoquait la Vierge et les saints. Gisèle, tout à coup, s'arrêta, regarda autour d'elle et vit que l'instant était propice. Elle se trouvait un peu au-dessus du pont au change, dont les maisons à toits aigus et à croisillons de bois enjambaient la Seine. « Il faut nous quitter ici, » dit Gisèle avec fermeté. « Ne résistez pas, c'est inutile. Vous serez chassés, c'est probable. Mais si vous voulez vous présenter demain à cette même place, vous y trouverez quelqu'un qui vous remettra 5 000 livres. Adieu !» D'un mouvement rapide, elle se débarrassa de Giuseppa et fit quelques pas en revenant vers le pont. Giuseppa n'avait pas dit un mot, pas jeté un cri. Seulement, un sourire funèbre balaya comme un éclair son visage. Elle ne fit pas un mouvement pour suivre Gisèle. Seulement, elle se pencha pour voir ce qui allait se passer dans ce recoin de ténèbres et de crimes, et elle vit. 2, 3, 4 ombres qui surgissaient et barraient la route à la fugitive. Ce fut rapide comme une vision. Pas de lutte, pas de cri. Ces ombres entourant Gisèle, cela forma un groupe sinistre qui s'agita, tourbillonna, dévala vers le fleuve, vers l'eau noire, qui s'engouffrait sous les arches ouvertes comme des gueules fuligineuses d'où sortaient des plaintes. Puis il y eut un cri, un seul, une clameur de détresse. Et dans le même instant, le bruit soyeux de l'eau qui s'ouvre et se renferme. Puis ce fut tout. Giuseppa, à demi courbé, penché sur cette scène d'horreur, Giuseppa, le front mouillé de sueur, les yeux exorbités, se redressa alors lentement. Les ombres la rejoignirent et l'une d'elles murmura « C'est fait !»